Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir notre bien le plus précieux que Dieu nous a donné, sa parole. Nous allons entendre deux textes. Le premier sera dans l'épître de Jacques. Nous continuons donc la série de prédications sur Jacques. Nous sommes au chapitre 5. Nous lirons les versets 7 à 11. Et nous entendrons aussi un deuxième texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Mais nous commencerons par entendre Jacques, chapitre 5.
Jacques, chapitre 5, verset 7 au verset 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Apocalypse, chapitre 20, verset 10 au verset 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le tank de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils le seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le tank du feu. C'est la seconde mort, le tank de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. La parole du Seigneur.
J'aime rappeler que nous sommes dépendants de l'Esprit pour écouter la parole de Dieu. Alors j'aimerais simplement prier maintenant. Éternel notre Dieu, ouvre nos cœurs et que ton Esprit travaille en nous pour ta gloire et par ta grâce. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Alors Jacques, le demi-frère de Jésus, nous encourage dès le début de l'Épître à vivre en fait par la foi. Et cette foi sera en fait notre force pour traverser les épreuves. Ça, il commence tout de suite au début de l'épître de Jacques à en parler. Il nous parle aussi de cette foi qui nous pousse à demander la sagesse afin que nous puissions vivre avec sagesse, que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres. Et la mise en pratique de notre foi va démontrer qu'elle n'est pas morte. Et au début du chapitre 5, eh bien Jacques se tourne vers les riches. Il leur fait comprendre que leur manière de vivre qui amasse sur le dos des autres, qui s'appuie sur l'or et l'argent, et même qui condamne et tue le juste, vont subir un sévère jugement. Jésus avait bien dit de placer son trésor dans le ciel, là où ni la rouille ni le ver ne détruisent et pas même où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là est ton cœur, disait Jésus dans Matthieu 6, 21. Nous en avons donc parlé la dernière fois et j'avais intitulé cette partie « La foi anti-avarice ». Puisqu'on est dans l'artillerie de ce que la foi nous donne de vivre, d'éviter aussi. Et les riches s'attaquent aux justes, ces personnes qui ne sont pas en tort, qui sont justifiées en Christ, ne résistent pas. Les justes savent que ce n'est pas à eux de juger, mais à Dieu. C'est pourquoi Jacques se tourne ensuite vers les opprimés avec le passage du jour. Et le mot-clé de ce passage de Jacques 7 à 11, pardon, c'est le mot... C'est quoi le mot-clé, là ? Patience. Exact. Le mot patience. Avec l'objectif clair, l'objectif de la patience, c'est quoi ? C'est l'avènement du Seigneur. On n'a pas juste de la patience pour avoir de la patience. On a de la patience avec un objectif clair qui est l'avènement du Seigneur. Une illustration agricole nous est donnée pour appuyer cette notion de patience avec un objectif. Et l'attitude de patience nous est donnée aussi par des modèles, des prophètes et de Job qui stimulent la mise en pratique. Mais qu'est-ce que la patience ? Comment la nourrir et la vivre ? Eh bien, pour une définition, moi j'aime bien les dictionnaires, donc j'ai ouvert un dictionnaire, puis j'ai été regarder qu'est-ce que le Larousse nous dit de la patience. Alors, voilà ce qu'il nous dit. 1. Attitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Ça vous parle ? Donc il y a des synonymes comme endurance, longanimité ou des contraires qui sont l'exaspération, l'irritabilité, etc. 2. Qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Des synonymes, le flegme, l'impassibilité, l'imperturbabilité ou l'inverse qui est l'impatience, clairement ici. Et troisièmement, la persévérance, constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Et là, le synonyme serait du courage ou de la ténacité, et le contraire de l'instabilité, de l'inconstance ou de la versatilité. Moi, j'en sors trois éléments clés. Il y avait trois éléments, donc voilà, trois éléments clés. C'est que la patience, c'est supporter paisiblement, attendre calmement et persévérer vers un but. Trois éléments. Il est intéressant de voir que Jacques prend plusieurs versets pour développer et souligner en fait ce qu'est la patience, qui est le résultat de la foi en fait. On se rend compte ici que la patience est le résultat de la foi. C'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Et nous y retrouvons différents aspects de ce qu'est la patience et je vous propose de voir cinq éléments ensemble en fait dans ce texte. Dans les versets 7 et 8 et 9, la patience produite par la foi a un but. La patience a un but. Premier point. Deuxièmement, la patience produite par la foi est confiante. On le verra par cette illustration agricole. Troisièmement, la patience produite par la foi est paisible. Puis là, on verra que râler n'est pas être patient. Quatrièmement, la patience produite par la foi est prête à souffrir. Là, c'est les prophètes qui vont nous aider à le comprendre. Et puis cinquièmement, la patience produit la foi qui tient ferme. Et c'est l'exemple de Job qui va nous y conduire. Voilà pour le menu. Donc partons dans cette première partie. Prenez toujours vos Bibles ouvertes pour qu'on puisse aller lire ces textes. Donc on va relire la première partie du verset 7, puis ensuite versets 8 et 9. Voici comment Jacques commence ici. « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » On pourrait dire ça, c'est le titre, puis tout le reste, c'est une explication. Verset 8. « Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car... l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Trois fois la référence à cet avènement de Christ. Alors, je ne sais pas si vous êtes patient. Par exemple, dans une colonne de voitures arrêtée, alors que vous êtes déjà en retard. Ça vous parle ? Ou devant la porte de la salle de bain fermée le dimanche matin alors qu'il n'y a plus que quelques minutes avant de devoir partir pour être à l'heure. Ou ayant rendu son examen et il faut attendre les corrections pour savoir si vous avez passé l'année. Ou encore lorsque vous avez terminé la préparation d'un repas, tout est prêt, il est bien chaud, vous appelez les gens à venir et voilà que deux personnes vont aux toilettes. Ou encore face à quelqu'un qui vous veut franchement du mal. Notre patience, en fait, est très souvent mise à l'épreuve? Est-elle grande ou petite, solide ou très fragile? Sur quoi s'appuie-t-elle? Si dans votre voiture, vous voyez en fait que c'est le feu qui provoque l'arrêt et que même vous avez déjà vu, il y a des feux où il y a même le temps qui est donné jusqu'à quel moment ça devient vert. Vous avez déjà vu ça, c'est assez marrant. Ben, en fait, votre patience, elle sera souvent un peu plus motivée. Parce que vous voyez le bout, vous savez ce qui bloque et vous savez en fait à quel moment vous pourrez partir. Alors que si vous n'avez aucune perspective, c'est un peu plus difficile. Eh bien, la perspective objective de la fin de l'attente va stimuler votre patience. Ça, c'est un élément important à comprendre. La perspective objective de la fin de l'attente va stimuler votre patience. Et Jacques connaît cela, il le sait. Voilà pourquoi il donne un point de repère auquel notre patience peut s'accrocher. Un événement qui est certain, un événement qui amènera la justice, la délivrance. Un événement qui annonce la fin des souffrances, l'entrée dans la gloire, dans la félicité pour ceux qui sont en Christ. C'est ce que Jacques appelle l'avènement du Seigneur. Qu'on peut aussi, selon les traductions, entendre le retour de Jésus-Christ, ou la parousie, pour utiliser le terme qui est utilisé ici. Si vous avez entendu ces termes, eh bien c'est en fait la même chose. Il s'agit de la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, il est déjà venu une première fois, quand il est né d'une femme, qu'il a vécu une vie parfaite, qu'il est mort à la croix pour prendre nos péchés, qui ensuite est ressuscité et qui est monté au ciel. Et à ce moment-là, quand il est monté au ciel, les disciples étaient là, un peu penauds, enfin, voilà, il avait disparu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans Actes 1, verset 11, des anges leur parlent. Et ils leur disent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus reviendra, c'est certain. Il reviendra, c'est certain. Et plus certain encore que le soleil se lèvera demain. Vous pensez que le soleil va se lever demain? Sinon, on a un problème, la Terre s'arrête, il y a beaucoup de soucis si le soleil ne se lève pas demain. Mais en fait, la venue de Jésus est encore plus certaine que le soleil qui se lève demain. Et l'avenue de Jésus est encore plus certaine que votre prochaine respiration. C'est quelque chose de totalement certain. Et j'aimerais vous donner quelques éléments certains de son avènement, des éléments où tous ceux qui aiment la parole de Dieu sont d'accord. Il y a des petites positions pour l'eschatologie, c'est possible, mais il y a des éléments où on est clair. Le premier élément, et je vais vous lire quelques textes, c'est que Jésus reviendra à un moment inattendu. Et ça, c'est 1 Thessaloniciens 5 qui le dit. Qui dit ceci, vous pouvez regarder dans vos Bibles, vous regardez Jacques, on y reviendra, mais vous pouvez aller un tout petit peu avant dans vos Bibles, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Donc celui qui est enfant de Dieu, ben il sait qu'il va revenir. Donc, il n'est pas surpris qu'il vienne. Par contre, on ne sait pas encore à quel moment. Donc, Jésus reviendra à un moment inattendu. Deuxièmement, Jésus reviendra corporellement, de manière visible, et tous plieront le genou devant lui. Là, on a le texte, par exemple, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7, qui dit « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. » Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et dans Philippiens, il est dit clairement, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, donc à Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus reviendra d'une manière visible. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur si vous avez, que vous avez loupé le retour du Seigneur. Il est visible. Okay. Ensuite, Jésus reviendra pour juger tous les hommes. On a lu Apocalypse 20 tout à l'heure. Là, je prends un autre texte dans Actes 17 qui nous dit, Actes 17, 30 et 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant des morts. » C'est clairement de Jésus dont il est question ici. Alors certains disent peut-être, oui, mais ça fait longtemps que les chrétiens disent que Jésus va revenir et il n'est toujours pas là. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela? Mais quand vous entendez cela, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Un jour, 50 000 ans, 1 000 ans comme un jour.
Amen! Excellent! Un jour comme 1 000 ans, 1 000 ans comme un jour. Et en fait, tu fais exactement référence au texte de 2 Pierre 3. Et c'est ce texte qui doit nous venir quand on entend ça. Et on va le lire. Allons dans 2 Pierre 3 ensemble pour l'avoir en tête. 2 Pierre 3, versets 8 et 9. Enfin, 8 à 12, on va lire. Non, même à 15. 2 Pierre 3, où il est dit « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1 000 ans et 1 000 ans sont comme un jour. » Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de... Ah tiens, c'est un mot-clé aujourd'hui, non? Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut, dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Là, on est dans Pierre qui dit que Paul en parle et nous, on est en train d'étudier Jacques. Bon, ils en parlent les trois. C'est quelque chose qui est très important pour chacun. Et là, il nous dit dans Pierre, donc si on revient dans Pierre, hein, puisque c'est ce qu'on est en train d'étudier, dans Jacques, pardon, Jacques 5, que je l'ai sous les yeux aussi. Voilà. Donc il est dit ensuite que le Seigneur est proche, hein, comme voici le juge se tient devant la porte. Juste pour un petit peu imager ça, hein, qu'on se rend compte qu'est-ce que ça signifie devant la porte. Si quelqu'un vient ici à l'église de Saint-Baptiste de Neuchâtel depuis Genève, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'autoroute A1. Ça va? Il arrive sur Yverdon. À Yverdon, il va donc prendre l'autoroute A5 en direction de Neuchâtel. Il arrive à la sortie numéro 9. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas par cœur, hein, au Vernier. Et puis là, ben, il prend la route, la Brenna, qui change de nom deux fois d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on arrive à la rue Fournachon. Et ensuite, rue du Lac 10. Il s'arrête, on se parque. On arrive ici devant la maison. 10 mètres depuis la route, on arrive devant la porte. Et à ce moment-là, en fait... La prochaine action, c'est l'entrée dans les locaux. Il est dit dans ce texte qu'il est à la porte. Il est devant la porte. Le juge se tient devant la porte. La prochaine étape, on pourrait dire, c'est l'entrée dans la salle du tribunal pour le jugement. Oui, nous allons vivre des moments difficiles. Jacques le dit, il nous l'enseigne, on a des tribulations. Mais comme le dit Jacques, prenez patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermir son cœur, c'est quoi? Affermir son cœur, c'est se rappeler des promesses de Dieu qu'il va tenir. C'est nous nourrir, en fait, nourrir notre patience avec ce qui va venir. Si on reprend l'exemple, le feu va passer au vert. Nous le savons. Donc ça nous aide à patienter. Si vous ne savez pas, peut-être si vous savez pas s'il reste tout le temps rouge, peut-être qu'on n'arrive pas à patienter. Mais nous le savons, il va passer au vert. Et c'est ainsi que notre patience est nourrie. Et la foi, justement, en ce que Christ va faire, est l'antidote à l'impatience. Car elle nous fixe sur quelque chose de certain. Et Jacques nous parle de trois exemples. On a déjà vu, hein, Jacques, lui, c'est quelqu'un qui insiste lourdement. Donc si quelqu'un me dit un jour, ouais, mais bon, tu nous dis quelque chose, après tu répètes, puis tu vas encore plus... Bon, ben, Jacques, il fait la même chose, donc ça va, je suis couvert. Hein. Donc Jacques, il continue ici, il dit, ben, il prend un exemple de la nature, du laboureur, il prend encore les prophètes, puis encore Job. Il veut vraiment enfoncer le clou sur ce sujet-là, et on va justement l'accompagner. Donc le verset 7, deuxième partie, hein, où il est dit... Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc la patience produite par la foi est confiante. Il est intéressant de noter que Jacques parle du laboureur. Alors, je ne sais pas si pour vous, qu'est-ce que ça vous vient à l'esprit quand je vous dis laboureur. Généralement, quand on parle de laboureur, vous n'avez pas quelqu'un qui est dans un hamac. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même pas ça qui vient à l'esprit. En tout cas, chez moi, c'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui est actif. Il est en train de labourer. Il est en train de travailler dans son champ. Il n'est pas paresseux. Quelqu'un d'affairé. Donc, être patient ne signifie pas ne rien faire. Être patient ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie être confiant de ce qui est promis, qui arrivera en son temps. Et c'est pour ça que le laboureur va justement labourer et semer. S'il n'avait pas cette espérance, ben il ne le ferait pas. Il n'attendrait même pas. Et l'échelle de temps pour le laboureur est simplement différente que notre échelle de temps par rapport au retour du Seigneur. C'est vrai que pour le laboureur, ben, ça se passe en une année. Hein, puis c'est chaque année qu'il y a les récoltes. Hein, mais imaginez qu'un laboureur ne puisse pas attendre plus qu'un jour. Et puis, il se dit, est-ce que j'aurai une récolte? Puis il va déterrer chaque fois ses semences, puis il va regarder est-ce que ça pousse. Parfois, des enfants font ça quand ils commencent à mettre des graines pour voir comment ça pousse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il la détruira, il n'aura jamais de récolte. Parce qu'il faut la laisser et avoir confiance. Et être patient. Et l'échelle du temps pour le retour de Christ n'est pas une année, mais une éternité. C'est l'éternité qu'on vivra avec notre Seigneur. Ce n'est pas juste une année. Et le temps que nous passons sur cette terre, en fait, est très très court face à l'éternité. Bien sûr, ça peut nous paraître long quand on attend. Demandez aux enfants, quand ils attendent la prochaine fois qu'ils peuvent avoir l'histoire du soir alors qu'on est le matin, ouh là là, c'est juste énorme. Mais en fait, c'est très peu ce temps par rapport à l'éternité, par rapport à ce retour du Seigneur. Et Jésus, le retour du Seigneur, donc cette récolte, est aussi certaine que la récolte annuelle, mais dans une autre échelle de temps, tout simplement. C'est ce que Jacques prend ici comme exemple. Alors le laboureur, l'agriculteur prépare le terrain, il sème, il protège sa culture, il met de l'engrais, il observe des pousses, puis des plantes, des fleurs, annonciatrices de fruits qui mûrissent. La pluie de la première saison permettait, particulièrement dans ces pays-là, d'ameublir le sol afin de pouvoir semer, si le sol était trop dur. Et puis ensuite, la pluie d'arrière-saison, donc avant la récolte, permettait le mûrissement final. Hein, et dans la Bible, en fait, cette image, si vous regardez dans les textes de l'Ancien Testament, de la pluie de la première et de l'arrière-saison, bien de l'automne et du printemps, en fait, c'est chaque fois une marque de bénédiction. Donc, quand il n'y a pas de pluie de première et d'arrière saison, eh bien, c'est qu'en fait, la bénédiction est enlevée. Et ici, Jacques dit justement, mais le laboureur, il l'attend et il fait confiance que Dieu va lui donner. Et nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons cette bénédiction. La malédiction a été enlevée. Et cette illustration de récolte est vraiment ancrée dans la Bible. Hein. C'est quelque chose que nous continuons d'ailleurs à vivre, même si nous sommes plus tout proches de la terre. Hein. Je crois qu'il n'y a personne ici qui a des grands champs pour nourrir toute la population de Neuchâtel. Il y a des jardins, hein, ça c'est bien, ça aide à comprendre. Mais en fait, on continue quand même à dépendre des récoltes. S'il n'y a pas de blé, il n'y aura plus de pain, même si ce n'est pas vous qui le cultivez. S'il n'y a plus d'herbe qui pousse, les animaux ne peuvent plus se nourrir, donc il n'y a plus de viande, plus de lait, enfin, etc. Nous sommes encore aujourd'hui dépendants des récoltes, même si on n'en est plus autant conscient. Et dans Galates, cette illustration est utilisée pour nos actions. Hein, peut-être vous connaissez bien ce texte, hein, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Sème, on moissonne. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et nous savons que la récolte finale, c'est lors du retour de notre Seigneur. Donc on revient dans le sujet qu'on a dans Jacques ici aussi. Donc rappelons-nous que notre Seigneur Jésus a aussi semé. Il est venu vivre sur cette terre, une vie parfaite. Il a donné son sacrifice. Et qu'est-ce qu'il récolte? Le salut éternel que nous pouvons recevoir. C'est une récolte extraordinaire. Vous savez, si Joseph a pu nourrir l'Égypte et même des pays environnants pendant 7 ans, hein, pendant le temps de famine, avec toute la récolte, eh bien Jésus, lui, il peut nous nourrir éternellement avec la récolte que lui a pu faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous d'aller auprès de lui. Et le verset 9 nous indique un élément important à vivre dans l'attente patiente. Hein, si maintenant on va au verset 9, c'est une caractéristique importante de la patience. Donc je relis ici, verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge se tient devant la porte. » Or, le terme « se plaindre » ici signifie soupirer, gémir, se plaindre. En fait, ce que nous faisons facilement, surtout quand d'autres font appel à notre patience. C'est déjà vu, quand quelqu'un fait appel à notre patience, enfin, il ne dit pas « j'appelle ta patience hein. ». Il fait quelque chose qui demande à ce qu'on soit patient. Ben là, ce n'est pas facile de ne pas se plaindre, de ne pas entrer dans cette plainte. Et la patience, en fait, c'est de ne pas nourrir de la plainte. La patience ne va pas se nourrir de la plainte, de soupir ou de murmure. En fait, c'est un poison qui rend la patience malade ou même inopérante. Comment un parent qui se plaint de ses enfants pourrait être patient avec eux? Ou comment des enfants qui se plaignent de leurs parents pourront être patients avec eux? Ou comment, en fait, si quelqu'un se plaint de ses voisins, de ses collègues, de ses amis, de sa sœur, de son frère en Christ, mais comment pourra-t-il être patient? En fait, en devenant impatient suite aux plaintes que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres, c'est une voie grande ouverte aux péchés par lesquels nous serons jugés. C'est ce qui est écrit dans ce texte. Critique, calomnie, réaction irritée, paroles blessantes et tant d'autres froids piquants, si on veut les appeler comme ça. Le juge se tient à la porte, est-il dit à la fin de ce verset. Et cela doit nous stimuler pour 3 choses, 3 éléments qu'on peut voir avec ceci. Premièrement, c'est que le juge va juger le mal que les autres me font. Même s'il n'est pas possible de demander justice ici-bas, lorsqu'il viendra, il fera justice. Ça doit nourrir notre patience. Ça doit nous aider à être patients dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. Deuxièmement, Jésus vient juger et je ne veux pas être dans une situation qui demande un jugement. En fait, je veux lui plaire, être dans une attitude qui démontre ma reconnaissance pour son sacrifice pour moi. Donc une motivation personnelle aussi. Le fait que le juge est à la porte, hein, que la prochaine étape c'est ouvrir et entrer, eh bien c'est de dire ben, je désire qu'il me trouve dans une situation où je l'honore. Tout en sachant que ce n'est pas notre dernière action qui définit notre salut, heureusement. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne s'en préoccupe pas, c'est important. Et troisièmement, lorsque le juge arrivera, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont cru en lui, et vivent leur foi, hein, en lui obéissant, en étant baptisés, comme premier acte d'allégeance par exemple, etc. Tous ceux qui sont en Christ, en fait, se réjouisseront de savoir que ce juge qui arrive est aussi l'avocat qui nous défendra. Parce qu'il a payé. Donc c'est les 3 éléments qu'on peut avoir quand le juge se tient à la porte. Hein. Le premier, c'est qu'il va juger le mal. Donc ça nous aide aussi si on ne peut pas demander justice sur cette terre. Ça arrive souvent d'ailleurs. Eh bien, on met ça entre les mains de Dieu. On ose demander justice aussi sur terre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand c'est fait dans une attitude aussi qui honore Dieu. Et deuxièmement, Dieu vient juger, donc je ne veux pas moi-même être dans une situation qui lui déplaise. Et troisièmement, lorsque le juge reviendra, eh bien, c'est aussi mon avocat, en fait. Donc je suis rassuré de savoir qu'il vienne parce qu'il va me défendre. Donc sachant que notre roi est à la porte, encourageons-nous à ne pas nous plaindre, mais vivre la patience paisible produite par la foi. Or, le lecteur de Jacques se souvient peut-être qu'au début de sa lettre, il disait quelque chose. Bon, on l'a lu il y a quelque temps, donc on va retourner au début de Jacques, hein, pour regarder avec moi dans Jacques 1. Et voilà ce qu'il disait dans Jacques 1, on lit juste le verset 3, ça nous rappellera. « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » On est toujours dans le même thème ici. « Produit la patience. » Cela signifie que Dieu va utiliser même l'épreuve pour nous faire grandir dans la patience. Nous ne sommes jamais appelés à provoquer ou chercher la souffrance. Mais elle fait partie de notre chemin, ici-bas. Et en fait, Jacques prend l'exemple des prophètes. Si je vous parle de prophètes, vous avez des prophètes qui vous viennent à l'esprit comme ça ? Des prophètes qui ont souffert, en fait. Je vais juste vous en citer un, mais on pourrait en prendre d'autres. Il y en a un qui me vient assez facilement en tête, c'est ce prophète à qui Dieu a dit ceci. « Si tu leur adresses toutes ces paroles, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. » Il lui annonce la souffrance. C'est Jérémie, exactement. Et Jérémie a vécu la souffrance morale de ne pas être écouté. C'était une réelle souffrance. Pourtant, il a continué à annoncer la parole de Dieu. Il a souffert physiquement, il était jeté dans une citerne. Il était mis en prison, ses écrits ont été brûlés. Et même après la déportation, le peuple vient vers lui et lui dit « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous n'agissons pas selon toute parole de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu t'aura envoyé pour nous. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu vers qui nous-mêmes nous t'envoyons. Ainsi nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de l'Éternel notre Dieu. » Donc là, voilà, ils sont là. « On va faire ce que l'Éternel dit. » Alors Jérémie, ça peut-être pu l'encourager. Il leur transmet ce que l'Éternel leur dit, de ne pas aller en Égypte, etc. Et quand il leur transmet ce que l'Éternel dit, voici ce qu'ils lui répondent. Azia, fils de Hoshaya, Yohanan, fils de Caréa, et tous ces hommes présomptueux dirent à Jérémie, ce que tu dis est faux. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire, n'allez pas en Égypte pour y séjourner. À nouveau, Jérémie est dans une situation de difficultés, de souffrances. Et pourtant, il a persévéré. C'est le chapitre 5, verset 10 de Jacques, qu'on est en train de voir ensemble. Il a dit clairement, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, qui a persévéré. » Être fidèle à Dieu et à sa parole amènera à l'opposition. Je suis désolé, c'est la réalité actuelle. Ça amènera l'opposition qui a d'ailleurs tendance à augmenter. Vous pouvez faire des tests. Hein. Dès que vous exprimez votre attachement à la vie qui prime sur le droit de tuer un enfant dans le sein de sa mère, vous aurez de l'opposition. Sans parler même de l'identité reçue de Dieu qui n'a pas à être modifiée par celui qui se considère autre. Vous allez provoquer parfois même de la haine, des hostilités. Et rappelons-nous alors des prophètes qui sont restés fidèles malgré un message de Dieu non reçu par leurs contemporains. Une patience prête à souffrir le rejet. Mais ce n'est pas un rejet total, parce que c'est un accueil auprès de Dieu. Nous avons un accueil, on a besoin d'accueil. Et cet accueil, nous l'avons auprès de Dieu. D'ailleurs, le plus grand prophète de tous les temps, qui était parfait, sans aucune contradiction, a souffert ce que personne n'a souffert. Jésus est le modèle de patience dans la souffrance et en même temps a pris sur lui la souffrance éternelle que nous méritons. Et Jacques va encore enfoncer le clou. Je vous ai dit, il continue là, hein, on est prophète, puis là il continue. Il donne encore un autre exemple pour souligner la fermeté dans la patience. Le verset 11, regardez avec moi. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Nous avons entendu dans la traduction seconde tout à l'heure qu'il parle même de patience ici. Hein, c'est un terme qu'on peut aussi prendre pour patience ou fermeté, mais ce n'est pas le même terme que le verset 7. Donc nous lisons l'histoire de Job comme s'il avait vécu et s'était déroulé en quelques jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parfois on lit l'histoire et on se dit voilà, une petite semaine et tout s'est passé. Je ne pense pas que c'était juste quelques jours. D'ailleurs, même pour le rétablissement, il a eu des enfants qui ont dû grandir. Enfin, c'était quand même assez long tout ce temps-là. Et ses souffrances étaient particulièrement sournoises parce que Satan lui-même s'en occupait de ses souffrances, parce qu'il avait fait un pari avec Dieu. Et Job a dû même faire face à des amis très proches qui l'accusaient faussement. Et il est resté fermement attaché à Dieu, même s'il ne comprenait pas tout. Et la patience ferme de Job qui découlait de sa foi nous pousse à avoir les mêmes motivations. Et ça m'encourage, et j'espère que ça l'encourage aussi pour vous, c'est quand vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi ne pas penser à Job 19, 25, 26 ? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aurait été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. Je ne comprends pas tout ce que je vis. Job ne comprenait pas tout ce qu'il vivait. Mais au milieu de ces calamités, il a dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. » C'est la même attitude que Jacques ici qui nous dit. C'est l'avènement de Jésus-Christ. C'est ce retour glorieux qui doit nous donner cette grâce de la patience. C'est la foi en ce que Dieu nous donne qui nous donne cette patience. La foi est l'anti-impatience. Parce que la foi a un objet, elle s'appuie sur une personne, sur sa promesse qui se réaliseront. Et vous savez quoi ? La patience, c'est bon. Vous avez déjà vécu des moments où vous étiez patient ? Est-ce que vous vous sentiez mal après avoir été patient ? C'est bon la patience. Ça vaut la peine de la rechercher, de désirer vivre cette patience. Parce qu'on est bien. Tout s'est peut-être pas passé comme on voulait, ça ok. Mais nous sommes bien. La foi est anti-impatience. Elle puise et s'appuie dans la vie de Jésus, dont la patience supporta toutes nos impatiences quelque part. C'est lui qui les a pris. Donc nos impatiences, on peut aussi les déposer. Il les prend pour que nous en soyons libérés. Donc la foi est anti-impatience, elle puise et s'appuie dans la vie de Jésus dont la patience supporta tout paisiblement, attendant calmement son heure et persévérant jusqu'à l'accomplissement de son œuvre. Lui qui a vécu sans plainte, Jacques disait, la plainte ça n'amène pas la patience, Jésus a vécu sans plainte, supportant la souffrance dans l'espérance de la résurrection et de la gloire. Alors, puisons dans sa patience. Soyons patients. Jésus revient et nous régnerons avec lui dans la gloire. Et si un jour nous avons de l'impatience, nous pouvons aller à la croix, la déposer et en être libérés. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu nous connais. Tu nous connais tellement bien que tu sais que nous avons besoin de nous rappeler très souvent cette joie, cette certitude du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que notre patience puisse être aiguisée, encouragée, stimulée, nourrie d'une manière qui t'honore. Parce que notre patience s'appuie sur tes promesses. S'appuie sur ton œuvre, s'appuie sur un terrain tellement solide que nous pouvons continuer à le faire parce que tu es ce Dieu qui est inébranlable, qui accomplit ce qu'il dit. Oui, nous n'avons pas les horaires, les dates de ce qui va se passer, mais nous avons la perspective que tu nous as donnée, qui est une réalité. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à le saisir encore plus. Et de nous réjouir de la patience que tu as envers nous. Une patience qui est si grande Et j'aimerais te prier, Seigneur, de nous donner d'être toujours plus patients les uns avec les autres. Et ainsi, non seulement être paisibles parce que nous avons pu être patients, mais que les autres puissent être paisibles parce que nous sommes patients. Seigneur, il est bon de venir vers toi et de nous réjouir de tes œuvres. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.